CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, une imprimante RepRap, un scanner 3D, un Raspberry Pi 3 et une découpeuse laser. L'équipe aujourd'hui, Solarus et Daskritch, notre interviewée est Camille Platevoet, formatrice en machine-outil au Fab Lab Artilect. Et j'espère que tout le monde a mis son portable sur silencieux. Ouais, si vous pouvez couper aussi la scie sauteuse derrière, ça m'aiderait beaucoup. Ok. Hein ? Merci. Ok, c'est parti.
CPU, carré et petit utile.
Bonjour Solarus.
Salut.
Vas-tu... bah oui, vas-tu bien ?
Ça va, je sais. Quand j'arrêterai de saturer.
Tu veux dire que tu es en burn-out ?
Non, je suis en vacances.
Ah bon, j'ai un burn-out alors. Camille Platevoet, bonjour. Je l'ai bien dit ou non ?
Oui, très bien.
Non, parce que sinon on coupe et on reprend.
Non, c'est très bien.
Et on ne dit pas bonsoir puisqu'il est 11h du matin.
Ah oui.
Sauf si les gens réécoutent le soir.
D'accord, bonjour.
Ça, c'est l'avantage du podcast. Non, mais on ne sait pas, en fait. Et puis les robots, la notion de jour, de nuit.
C'est encore la faute d'Internet.
Oui, comme d'habitude. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui rêves de transformer tes créations de plasticine en production à grande échelle. L'un des sujets de moquerie dont m'affuble mon entourage évoque à la fois mon poil dans la main et ma légendaire gaucherie. Oui, avoir deux mains gauches, c'est velu. Rien que l'idée de changer la roue de ma voiture tient pour moi autant de l'effort titanesque que de la puissance intellectuelle. Un peu comme le fameux sport de cheese boxing, créé par Enki Bilal dans la BD Froid Équateur. C'est un sport où on alterne les rounds de boxe et les combats d'échecs en mode blitz 2x10 minutes. Un peu comme ce qu'ils font à côté dans le studio. Sauf que moi, même pour l'utilitaire, je me dégonfle à rechausser ma citadine. Il a fallu qu'on me propose une soirée mousse en brasserie pour que je change ce fichu pneu. Et ça n'a pas loupé. Crac, tour de rein. Et j'ai tellement trinqué qu'on a fait la soirée chez moi, ce qui était plus sage en cas d'alcotest impromptu. Bon, je vais être franc. Le jour où il a appris que je m'étais acheté un cutter, mon assureur a triplé ma prime. La confiance règne. Pourtant, j'adorerais être un bricoleur. Je dirais même plus, je suis tellement pédant que je m'achèterais une imprimante RepRap, un scanner 3D, un Raspberry Pi 3 et une découpeuse laser, rien que pour orner mon salon et me la péter la prochaine fois que j'invite des personnes désespérées au point d'être mes amis. Pourtant, pas besoin de se ruiner dans un équipement aussi encombrant au salon que la sorbetière, le service à fondu, un appareil raclette et l'autocuiseur à œufs qui vous bloque le tiroir à casserole dans la cuisine. Actuellement en vente sur leboncoin.ebay. Non, pour de tels engins industriels, ce supposé être dans mon salon, hein, pas ceux de la cuisine, enfin dans la petite annonce, il existe des lieux associatifs ou prêtés par des entreprises qu'on appelle des Fab Labs. Alors si je commence à vous expliquer ce qu'est qu'un Fab Lab, je vais passer à côté d'éléments importants, comme par exemple les gens qui vont vous aider à utiliser une découpeuse laser sans vous blesser de préférence, des personnes rompues au premier secours qui seront appuyées sur le bouton d'arrêt d'urgence, l'assurance civile sur les dommages et l'adresse déjà connue du SAMU. On ne sait jamais, ça aide. Donc ce week-end a lieu au Artilect Fab Lab, métro Padoue, à Toulouse, je précise pour ceux qui cherchent sur la carte de la RATP, la 5e édition du Fab Lab Festival. A savoir que, comme l'année dernière, seuls les samedis et dimanches seront ouverts au grand public, mais si vous pointez avec une planche de catapac de 8 mm ou une caisse à outils sur roulette, il y a peut-être des chances qu'on vous prenne pour un exposant pendant les journées professionnelles. Non, ne le faites pas quand même. Sur un malentendu, on ne sait jamais, ça peut marcher. Et comme une poule qui regarde un couteau, je ferai les mêmes soupirs d'épanouissement de voir des gens riches de leur savoir tirer de machines industrielles ou bricoler les objets plus ou moins utilitaires. En clair, j'aurai cette lueur d'intelligence que font certains ministres quand on leur parle de numérique et dont la déception tombera 5 minutes plus tard quand ils découvriront qu'il ne faut pas avoir fait l'ENA pour gérer un Fab Lab, de même qu'il n'y a pas de président d'Internet. Ils, comme moi, retourneront pantouflés. Moi, devant un documentaire de restauration de vieille anglaise à piston sur le canal 24 de la TNT. Eux, devant les offres d'annonces CAC 40 embauche aux fonctionnaires qu'un nez d'adresse exigé, canal piston. Enfin, du futur immédiat, tout est affaire d'envie. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Non, ça c'était les paroles de l'hip-hop de l'UMP, je me suis trompé dans mes notes. Venez plutôt tracer, venez scier. La culture do it yourself est archi traditionnelle au Royaume-Uni. Ouais, même si j'avais 40 ans, tu te rends compte, c'était encore dans les cours d'anglais quand j'étais en 6e. Mais les bricoleurs du dimanche sont aussi légion en France. Qui sait, ton futur est sûrement dans la proximité de la bricole. Suzuki, bande originale, extrait de la bande originale qu'il a faite du film Zaitochi Constructors, c'est le nom du morceau, et le film Zaitochi était sorti en 2004 avec
Shikitano.
Takeshi Kitano, très bonne réponse de la blonde au gros sein. Non, pardon, c'est nul. Vous écoutez FMR, c'est CPU. Nous avons déjà couvert sur l'antenne de Radio FMR le Fab Lab Festival, on l'a fait plusieurs fois, moi-même j'y étais l'an dernier, mais ça ne vous regarde pas. Mais pour une fois, nous souhaitions en parler avec recul, non seulement de l'impact réel des Fab Labs en France et en Europe, mais aussi de ce qu'amène cet événement structurant pour le mouvement DIY, Do It Yourself. J'ai inversé le Y, on ne coupera pas au montage. Nous avons la chance d'avoir au micro une personne qui participe à la vie quotidienne du Fab Lab Artilect, qui est le lieu hôte du festival, et qui est aussi impliquée dans l'organisation de ce week-end. Je reçois donc Camille Platevoet, formatrice en machine-outil au Fab Lab Artilect, cofondatrice de l'atelier Camille Arnaud, artiste pluridisciplinaire diplômée, scénographe d'exception et en tout cas extrêmement tolérante, vu comment je massacre son nom depuis au moins 9 minutes.
Carré et petit utile.
Camille Platevoet, c'est ça?
Oui.
Non, c'est pas ça. avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, on va commencer par une confidence que j'essaie d'obtenir de la part des gens comme ça qui bricolent. Quand tu étais en primaire et au collège, qu'est-ce que tu bricolais? T'étais plutôt Lego ou mécano?
Plutôt les deux.
Et en SWAT, vraiment, quel est justement lequel de ces deux marques, ou est-ce qu'il y en a une autre que tu donnerais à un petit neveu ou à un petit enfant?
On m'a parlé du Kapla ce matin, je crois que c'est aussi une bonne référence.
Non, le Kapla, on les balance
Lego,
partout. Ouais, non, c'est les trucs de bois.
Ah oui, oui, oui.
Ouais, tu sais, on joue à Badaboom avec. La dernière fois, on l'a ramassé partout, c'était une horreur. En tant qu'artiste, et surtout en tant que plasticienne, qu'est-ce qui t'a attiré en fait vers le mouvement maker?
La force des choses, je pense. Le fait de pouvoir fabriquer par soi-même des projets et mettre en forme des idées particulières. Mmh.
Donc, on l'a dit, tu es diplômée aux Beaux-Arts, si je me trompe.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, tu as eu l'occasion d'aller dans les ateliers d'artistes. Est-ce que, justement, tu as déjà vu des artistes qui s'étaient tournés vers des Fab Labs pour travailler?
Petit à petit, oui. Après, à ma connaissance, j'en fréquente pas forcément. Mais oui, c'est chose de plus en plus commune, je crois. Mmh.
Et en fait, donc c'est vraiment par la force des choses, c'était quoi? Tu avais un projet à construire? Tu avais quelque chose, un problème à résoudre? Ou c'était parce que tu en as entendu parler?
Au début, j'ai été en fait... j'ai suivi ça un peu de loin, petit à petit. Après, je me suis... petit à petit rapproché du Fab Lab, donc de Artilect. Oui, j'ai utilisé les premières machines lorsque j'avais un projet à réaliser avec des machines numériques. Voilà, sinon après à l'extérieur.
En fait, le projet est venu par la fréquentation du Fab Lab.
Pas forcément, non, ça dépend.
D'accord. Ok. Tu es arrivé donc au Fab Lab, Artilect Fab Lab, qui non seulement est le premier Fab Lab toulousain, mais c'est aussi le premier Fab Lab officiel en France qui a été installé. Toi-même, quand tu y as été, comment a été l'accueil?
L'accueil dans ce genre de lieu est assez convivial, de prime abord. Ensuite, c'est... Au fur et à mesure de la fréquentation, on s'adapte au lieu, on s'adapte aux machines, on s'adapte aussi à l'ambiance et on est de plus en plus à l'aise avec ces outils numériques qui font des fois un peu peur.
Au départ, c'est intimidant.
Oui, je dirais comme tout lieu où on découvre petit à petit comment fonctionnent les choses, jusqu'où on peut aller avec certains outils. Voilà.
Donc on a parlé du mouvement Fab Lab. C'est un mouvement qui est relativement récent. Comment en fait est-il apparu? Est-ce qu'il est structuré? Et qui c'est qu'il y a derrière?
Alors aujourd'hui, le mouvement, je crois, est en train de se structurer justement avec le réseau français des Fab Labs, enfin au niveau de la France, qui est né justement l'année dernière au Fab Lab Festival.
Ça, on va en parler justement. Mais à l'origine, en fait, d'où vient le nom et le concept?
Le nom donc vient du... Le concept vient du MIT, du Massachusetts Institute of Technology. Dans un cours donné par Niels Gerschenfeld dans le centre des bits et des atomes, il me semble. Où il a conçu donc le label et le concept des Fab Labs qui est aujourd'hui repris dans le monde entier.
Et en fait, il y a une espèce de labellisation justement qu'il donne. Il donne sa bénédiction, mais uniquement si certains critères sont en fait sont atteints. Quels sont justement les critères justement de la base qui fait qu'un Fab Lab est un Fab Lab?
Alors les critères sont très simples. Donc il y a une charte normalement à auquel il faut adhérer, déjà. Ensuite, les trois principes sont très simples. C'est simplement d'être muni donc, de machines, outils numériques, d'être accessible, c'est-à-dire par le prix, le coût des machines, et aussi dans les horaires et l'ouverture donc, des lieux. Et après aussi par le partage simplement, donc le fait de pouvoir partager des connaissances, des savoir-faire et des machines du coup dans un lieu. Ensuite la certification se fait par la Fab Lab Foundation, et donc des personnes prennent contact avec les porteurs de projets de Fab Lab pour certifier ou pas le projet. Mmh.
Et en fait, c'est pas un mouvement qui est uniquement cantonné aux pays riches, puisque ça, c'est un mouvement qui explose littéralement justement dans les pays en voie de développement. L'an dernier, au Fab Lab Festival, il y avait des représentants d'un Fab Lab burkinabé dans la capitale, Ouagadougou. Est-ce que je vais arriver à le dire ? Je ne sais pas. C'est justement, c'est pas quelque chose qui est purement cantonné, je veux dire, au milieu universitaire ou à des grosses industries.
Non, justement, aujourd'hui, on voit aussi l'émergence des Fab Labs ruraux de plus en plus. Et notamment, ce week-end, donc, au Fab Lab Festival, on a une vingtaine de Fab Labs étrangers, et notamment plusieurs des pays d'Afrique, justement. Ouais. Mmh.
Toi-même, pour en revenir, une fois que tu as commencé à travailler sur les machines-outils, est-ce que tu t'es essayé à l'électronique, voire à l'informatique ? Est-ce que tu as essayé MakeyMakey ? Est-ce que tu as essayé le développement avec des langages de script ?
Alors, en fait, c'était avant. Lors de mes études, justement, j'ai eu la chance d'avoir des ateliers pluridisciplinaires, donc de toucher à Pure Data, à l'Arduino. Mais après, arrivé au Fab Lab, en fait, ce qui m'intéressait, c'était surtout les machines de prototypage et de par ma pratique, tout simplement. Mmh. Donc, je pense que j'ai toujours en tête certains projets à faire, à réaliser avec ce genre de code. Mais dans ce cas-là, je préfère partager le travail et collaborer avec des programmateurs qui sont experts et qui manipulent avec beaucoup plus de facilité ce genre de langage que moi.
D'accord. Ça fait combien de temps en fait que tu es rentré chez Artilect maintenant ?
Sincèrement, pas très longtemps, pas si longtemps que ça. Ça doit faire un an et demi tout au plus.
Et maintenant, le stade d'addiction, c'est combien de temps que tu passes par semaine là-bas ?
Ça pourrait aller très loin, j'essaye de me limiter justement. Une journée par semaine, on va dire minimum.
D'accord, une journée complète. C'est ouvert de... Quels sont les heures d'ouverture en fait d'Artilect ?
Ça varie en fonction des personnes présentes, en fonction des jours. C'est ouvert du lundi au samedi. Après, je ne pourrais pas vous donner les horaires précises. Le lundi, c'est ouvert très tard et c'est très convivial. Après, voilà. Mmh. Y a des grandes plages horaires disponibles.
Donc, tu es désormais là-bas. Tu es formatrice en fraiseuse numérique. Quelle tranche d'âge du public ? Quel background professionnel en fait veulent toucher ce genre de machine ?
Alors c'est très divers. Il y a autant des étudiants ou voire des collégiens qui
ah ouais carrément.
Oui, qui commencent à approcher le lieu, à être intéressés par ce qui s'y passe, par ces technologies.
C'est pas parce qu'ils sont en train de griller là, il y a le lycée des Arènes à côté, il sèche des cours, et que c'est plus sympa.
Ça, je j'irai pas vérifier. Mais
forcément.
Mais donc voilà, la tranche d'âge, est vraiment très variée, jusqu'au bricoleur qui ne sait même pas comment fonctionne une clé USB, par exemple. Donc c'est pour vous dire vraiment que le public est vraiment très large.
D'accord. Non, mais je te rassure, moi non plus, je sais pas comment ça marche. Moi, je branche, j'utilise. Peut-être qu'un jour, j'en découperai une. Je la disséquerai. On parle quand même de fraiseuse numérique. C'est un gros engin, c'est un gros bébé. C'est-à-dire que c'est la sculpture, mais à la différence des imprimantes très propres où on dépose la matière, c'est... On creuse de la matière. Ça travaille sur quel volume en moyenne, maxi, sur ce type d'engin ?
Maxi.
Tu pars de quel volume brut en moyenne sur ce type d'engin ?
Alors ça, tout dépend de l'outil qu'on a, de la machine.
Celui que
qu'on
tu
a.
Utilises actuellement.
Alors celui qu'on a au Fab Lab, donc on peut usiner des pièces de 90 cm sur 60 de large.
Ah ouais, quand même.
Et là, on a reçu une nouvelle qui fait 3 mètres par 2 mètres. Donc, on D'accord. va pouvoir usiner des plaques entières, à peu près des standards.
Je tiens à signaler, parce que Solarus l'a vu, mais nos auditeurs qui n'ont pas payé la redevance couleur ne l'ont pas vu, mais il y avait cette petite lueur dans l'œil. C'est... du coup, c'est intéressant. C'est quand même ces machines qui s'apprennent, qui... Pour utiliser, on part en fait de logiciels informatiques, ça s'apprend comment ce type de logiciel, et même, est-ce que les gens peuvent essayer à manipuler le logiciel chez eux avant de venir avec un modèle à sculpter ?
Oui, tout à fait, puisqu'on essaye de dispenser des formations du coup au Fab Lab pour que les personnes deviennent autonomes et acquièrent les compétences le plus rapidement possible et deviennent autonomes sur l'utilisation des machines. Du coup, si la personne a déjà une habitude avec certains logiciels, elle va être autonome assez rapidement et va pouvoir acquérir le nouveau langage d'une interface particulière assez rapidement selon les logiciels qui dirigent les machines. Après, si la personne n'a pas du tout d'habitude et de compétences par rapport au logiciel, on essaye de travailler avec des logiciels open source aussi. Et à ce moment-là, ils peuvent chez eux télécharger les logiciels et se faire la main, même revenir au Fab Lab, échanger avec des personnes qui y connaissent un peu plus, exposer leurs problèmes et faire avancer comme ça leur projet petit à petit, coup par coup. Et tout un tas de personnes en fait sont présentes au Fab Lab pour apporter en fait des compétences ou solutionner tel type ou tel autre type de problème selon l'avancée du projet.
Donc on parle quand même d'engins qui sont assez importants, qui sont assez grands. Comment est-ce qu'on acquiert suffisamment d'assurance pour former des néophytes à des engins industriels d'un certain volume qui sont coupants, saillants, tranchants? Des fois, on se dit, ben moi aussi, j'ai appris, je vais apprendre. Ou c'est parce que les gens qui viennent vous voir, qui disent, ah, je vous ai vu utiliser, comment vous faites ?
Il y a un peu de ça, en effet. Mmh. Après, il y a des règles de sécurité à respecter, forcément. Mmh. Enfin, on va pas faire ça n'importe comment. C'est impressionnant, surtout notamment une fraiseuse numérique où l'outil tourne à 25 000 tours minute et avance. Donc ça va quand même assez vite. Si on fait n'importe quoi, ça peut faire quand même des dégâts. Après, ça reste, en tout cas pour moi, assez accessible. Les interfaces sont très simples. La première étape, c'est de passer le pas de dessiner, de faire un plan, de construire un plan, de l'exporter dans le bon format, de le lire après par la machine. Après, il existe des protections, enfin des règles de sécurité sur place dans l'atelier, et c'est assez simple d'utilisation.
C'est aussi un peu de bon sens quand même.
Un peu de bon sens et beaucoup d'expérimentation, puisque ça marche pas toujours du premier coup. Il y a des accidents aussi. Mais en même temps, c'est en testant.
L'expérience ne s'enseigne pas. Hein.
C'est ça. C'est en testant qu'on apprend et en expérimentant.
Alors, des gens arrivent, présentent des projets. Et parmi les projets qui arrivent et sur lesquels on demande, va un petit peu les aider, les coacher, leur enseigner des choses. Est-ce qu'il y en a qui te désolent ou est-ce qu'il y en a d'autres qui t'enthousiasment ? Allez, c'est quoi franchement ton coup de cœur actuellement ?
Oui, il y a des gens qui m'enthousiasment beaucoup. Après, moi, je fais des formations vraiment d'initiation. Donc le but pour moi, c'est vraiment que la personne qui n'y connaît rien, ou alors elle a déjà pratiqué un peu la découpe laser ou l'imprimante 3D, mais du coup elle n'a jamais pratiqué la, la fraiseuse numérique. Du coup, moi, juste mon but, c'est qu'elle se sente à l'aise et qu'elle comprenne les principes de base. Déjà, ça, c'est chouette que la personne soit autonome et guide la machine toute seule. Puis, pour après, imaginer des projets et faire ses projets tout seul. Après, c'est toujours aussi très fascinant de voir quelqu'un non pas dessiner avec un stylo et une feuille, comme on pourrait le faire sur un logiciel de plan finalement, mais à partir de langage codé, et donc des K17-P21, où là, moi, je n'y comprends plus rien, mais où à la fin sort une forme quand même... une trajectoire d'outils et une forme usinée. Donc, voilà.
Vous écoutez Radio FMR, CCPU, Carré Petit Utile. Et désolé, c'est un hommage vraiment obligé donc, au chanteur de l'affaire Louis Trio.
J'ai pris leur place, alors elles s'effacent. Quand les vérités sont banales, elles s'étalent dans le journal. Il vaut mieux tourner la page, partir en voyage. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes existent sur le dos des baleines. Je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes insistent sous les flots qui m'entraînent. Je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. Mobis, immobile. Mobis, immobile. Mobis, immobile. J'irai de l'avant contre le vent.
Disparu trop tôt, Clit Boris, alias Hubert Mounier, chanteur donc de Louis Trio, dessinateur de bande dessinée aussi, très ligne claire, ce qui explique d'ailleurs justement le tout premier clip qu'avait fait Chic Planet. Eh oui! Il avait fait les dessins de ses pochettes aussi. L'affaire Louis Trio, Mobilis in Mobile, extrait de l'album éponyme en 1993. Vous écoutez donc CPU sur Radio FMR et on va vous rediffuser en fait une chronique que j'ai faite l'an dernier qui a été enregistrée et diffusée depuis donc le Fab Lab Artilect, justement lors de la précédente édition du Fab Lab Festival. Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui nous écouteras dans quelques secondes, le temps que le son rebondisse dans les câbles de la serre, le multiple, l'Artilect Fab Lab jusqu'à notre émetteur. Nous sommes donc aujourd'hui en direct du 4e Fab Lab. Et oui, je fais ma chronique un vendredi matin à 11h dans l'émission MacBio de Dominique Burdin. La dernière fois, ce bougre a tenté de me faire manger un tofu fermenté au Penicillium roqueforti. L'année suivante, Dominique s'attaquait à la souffrance des légumes qu'on assassine et était passé de végétalien à minéralien. Il a tenté de me faire manger une omelette aux ersatz d'œufs composés exclusivement d'éléments ni animaux ni végétaux. Heureusement, j'ai tenu bon. Cette fois-ci, et c'est bien parce qu'il m'a promis un direct depuis le Fab Lab Festival que je suis venu. Et j'ai bien cru que je n'allais pas terminer le câblage à temps. Pour la première fois en 20 ans de production radio, on me demande de tirer les câbles exclusivement dans les canalisations prévues à cet effet. Oui, j'ai eu droit à la visite d'une commission de sécurité dans un Fab Lab pour Radio Éphémère. Je n'en reviens toujours pas. Mais il faut dire que le Fab Lab Festival est un événement qui reçoit des médias. Je veux dire, des vrais médias, sérieux et du grand public. Et oui, bah, nous sommes dans un événement politique soigneusement camouflé. Car si nous, nous en sommes convaincus que le futur industriel et créatif de la France viendra en grande partie par le mouvement des makers et des hackerspace, et enfin du futur immédiat, je t'en ai déjà parlé dans ce même lieu le 1er octobre dernier, crois-moi que les hommes et les femmes politiques n'en sont pas encore franchement persuadés. Car si mardi dernier est passée cette attaque hallucinante sur la démocratie qu'est la loi sur le renseignement, laquelle va mettre sous surveillance globale toute la population française, il n'est pas sûr qu'il y ait une cinquième édition du Fab Lab Festival l'année prochaine, et ceci malgré le prestigieux parrainage de la secrétaire d'État à l'économie numérique. Car si je devais résumer rapidement ce qui se passe ce week-end dans ces lieux, on a surtout des imprimantes 3D et des drones. Figure-toi que les imprimantes 3D sont directement attaquées par le groupe socialiste au Sénat, conforté par un rapport émis il y a 15 jours par le Conseil économique, social et environnemental. Effectivement, il y a, selon ces personnes haut placées et carrément perchées, urgence de réguler l'impression 3D.
Oh putain, non.
Je ne résiste pas à la tentation d'en résumer les 5 points proposés à l'assistant si présente devant nos micros tellement que ces propositions sont space. 1. Traquer l'échange de fichiers modèles d'impression 3D et menacer de couper la liaison Internet. Oui, exactement comme le fait Adopi sur les films et les musiques. Obliger les plateformes d'échange de modèles 3D à se conformer au paiement d'une taxe spécifique et à être régulées ou sinon censurées en France. Oui, exactement comme le fait l'Argel avec les sites de jeux d'argent. L'obligation de mettre des DRM sur les fichiers d'impression 3D afin d'en assurer le suivi par d'éventuels ayants droit, oui exactement comme le souhaite le SNE vis-à-vis des e-books. Imposer l'obligation d'avoir une marque ou un poinçon sur tout objet imprimé en 3D en identifiant le propriétaire de l'imprimante dans le cas de poursuite, un peu comme le furent obligés les bijoutiers du temps de Louis XIV. On va rire, hein, sur les petits trucs, on va rire. Créer une redevance à la copie privée taxant la construction d'imprimantes 3D et l'achat de matières premières, un peu comme tout support numérique qui est taxé par la SDRM. Et la SCPP, plus exactement. Pour ce qui est des drones, la peur qu'a généré dans certains ministères le survol de monuments touristiques parisiens entraîne actuellement une réflexion qui obligerait à faire passer un permis spécifique pour piloter un drone, assorti d'amende, voire de peine de prison en cas d'infraction, et le dépôt préalable d'un plan de vol auprès de l'aviation civile. Ah bah non, vous savez quoi ? C'est déjà en partie le cas. C'est juste que l'on a demandé à différentes entreprises d'étudier les systèmes automatisés capables de stopper un drone, loup solitaire, qui transporterait une éventuelle bombe atomique. Les réflexions en cours vont du brouillage hertzien à l'usage de canons à eau. Je vous jure que pour écrire ma chronique, je n'ai même pas eu besoin de forcer le trait. Oui, dans notre pays, les bricoleurs et la technologie sont encore vus par les politiques comme suspects, terroristes, voire même carrément salafistes en diable. Heureusement que je n'ai pas encore parlé de la mouvance open source intégriste dans l'informatique. Enfant du futur immédiat, il fut une époque où la France était très en pointe sur les autres pays européens à savoir ficher les gens pour débusquer les terroristes. Quelques mois plus tard, suite à un glissement sémantique et de point de vue de l'opinion publique, ces terroristes étaient devenus de valeureux résistants. La victoire sur l'Allemagne nazie a eu lieu il y a très exactement 70 ans, jour pour jour. Donc oui, le Fab Lab Festival est un événement politique et je doute que cela soit un hasard que nous fassions cette émission à 8 mai. Et on reprend donc avec Camille Platevoet, donc cette émission de CPU. Et donc ce que vous venez d'entendre, c'était un enregistrement qui a été fait le 8 mai l'an dernier, 2015, lors donc de la 4e édition du Fab Lab Festival. C'est vrai, c'était un parti pris, sincèrement, hein, cette chronique. Mais on l'a dit justement précédemment, le premier Fab Lab est toulousain. Est-ce pourquoi l'événement de référence est à Toulouse et pas chez les Parisiens ?
Je pense par la, tout simplement très naturellement, dans le sens où vu que le Fab Lab de Toulouse Artilect a plus d'années d'ancienneté, on va dire, a commencé peu à peu à fédérer des gens et donc avoir une communauté de plus en plus peut-être structurée et forte, ce qui a permis de se reposer du coup sur une équipe de bénévoles ou de personnes simplement motivées et pour faire avancer ce genre de questionnement. Et donc petit à petit est née l'idée de créer un événement. Donc le Fab Lab Festival a commencé par des rassemblements autour de, en invitant des conférenciers et en faisant des tables rondes, puis peu à peu à l'aménagement d'une halle de 3000 m² avec 5 à 10 000 personnes qui vont visiter le festival. Donc c'est vraiment peu à peu que les choses se sont faites.
C'est vrai que le multiple Artilect a un espace qui est absolument fabuleux, qui est, je crois qu'il y a pratiquement, tu as dit, il y a 5000 m² couverts, plus des locaux à côté pour faire des conférences et des ateliers. Et une cour, ce qui tombe très bien, vu le temps qui s'annonce. Et cette année, donc, le Fab Lab Festival, alors c'est vendredi pour une journée professionnelle. C'est donc, entrée uniquement sur présentation de la mallette où non, il fallait sur la mallette de bricoleur où il valait mieux d'abord se préinscrire, je pense. Et samedi, dimanche, donc, c'est ouvert à tous. L'entrée est gratuite pour tous, si je me trompe.
Tout à fait.
Et donc, justement, pour ceux qui en ont la curiosité et qui vont s'y pointer, qu'est-ce qu'ils vont y découvrir ?
Alors, juste pour compléter, il y a le festival ouvre dès demain avec la journée des Fab Labs, avec l'AG du réseau français des Fab Labs qui se tient demain matin avec les Fab Labs français présents, du coup, pour élire le bureau de l'association. Et la deuxième journée, du coup, est réservée aux professionnels et universitaires aussi, aux chercheurs. Et donc, ce week-end, l'ouverture des stands commence déjà vendredi pour les universitaires et les professionnels. Et ce week-end, donc, on pourra y découvrir des courses de drones, des imprimantes 3D, des projets faits avec des imprimantes 3D géantes, ou des personnes qui fabriquent leurs propres huiles essentielles ou font leurs produits ménagers ou cosmétiques eux-mêmes, des robots et des ateliers Arduino. Donc voilà, le panel est très, très large, avec des ateliers autour de l'Arduino, autour de fabriquer des lampes soi-même, faire des sacs, ou encore plusieurs présentations donc de lieux, de Fab Lab français ou étrangers qui se montent, et des conférences et des tables rondes avec des sociologues aussi, des chercheurs, des économistes et autres. Voilà.
Donc je l'ai dit, c'est un événement qui est devenu un événement structurant au niveau national justement par cette association des Fab Labs. Actuellement, il y a combien de Fab Labs justement qui sont réunis au sein de cet événement, au sein justement de cette fédération, pardon.
Alors, je crois que ça évolue assez vite. Je dirais autour de plus d'une centaine. Après, je suis pas la meilleure personne pour en parler. Je ne fais pas partie de cette fédération.
Et il n'y a pas que des Fab Labs, justement, puisqu'on parlait tout à l'heure. Donc, il y a des drones. Alors, des fois, il y a des drones qui sont do it yourself, mais il y a aussi des drones plus ou moins industriels. On est plus, je vais dire, proche du modélisme aérien par la qualité de construction et des pièces qui sont disponibles. D'accord.
Oui, après, donc il y a des ateliers pour faire ces drones soi-même. Il y a des courses de drones organisées donc au festival avec la volière. Après, il y a aussi des outils, oui, issus de l'industrie qui sont présentés pour démocratiser un peu ce genre de bestioles, j'ai envie de les appeler comme ça.
Oui, ça vrombrille, ça fait un sacré bruit hein, quand même.
C'est ça, oui, ça peut faire un peu mal à la tête à la longue.
Et on a parlé donc justement d'ateliers. C'est un événement aussi qui est familial, on peut y aller avec des enfants. Il y a des animations pour les enfants à partir de quel âge ? À partir de quel âge ils peuvent venir et trouver un petit peu de quoi peut-être s'intéresser ?
Je crois que même un enfant de 3 ans pourrait trouver l'émerveillement dans ce genre d'événement. Après, oui, en effet, il y a un atelier pour les enfants et un espace enfant donc mis en place, et notamment géré par l'association Combustible à Toulouse.
Oui, Eugène, si tu nous entends.
Voilà, donc il y a vraiment de quoi s'amuser pour les petits et grands, sans problème.
Donc je l'ai dit, le premier jour n'est ouvert qu'aux professionnels. Alors ça fait quand même un petit peu bizarre entre nous pour un événement qui promeut la possibilité de construire au grand public. Pourquoi y a-t-il donc cette journée qui est réservée à un public averti ?
Alors il me semble tout simplement parce que ce genre de lieu... génère une énergie particulière, une synergie particulière entre des personnes novices qui n'y connaissent rien, qui sont peut-être attirées ou fascinées par la technologie ou la science, et d'autres personnes qui sont pour le coup expertes de par leur métier, leur profession ou leur passion simplement. Mmh. Et donc ça fait, il me semble, une espèce de microcosme où... les idées fusent et les échanges vont assez vite. De ce fait, un projet peut prendre le projet d'une personne peut prendre différentes formes et peut évoluer assez vite par la rencontre et grâce à la rencontre de l'autre et des autres personnes, qu'ils soient experts ou non en la matière. Et de ce fait, il me semble que c'est intéressant pour les entreprises, en tout cas, de se rapprocher de ce genre de milieu et de lieu, parce que ça peut bousculer justement une certaine manière de penser, un certain chemin préconçu pour l'innovation ou la démarche de création de projet, et un peu bousculer la manière de faire.
Sur cette journée professionnelle, qui sont finalement les plus demandeurs ? C'est les TPAE, les PME, les écoles d'ingénieurs, les chambres de commerce et d'industrie, les collectivités locales, les grandes entreprises, les organismes nationaux ?
Vous les avez cités, je ne pourrais pas vous dire qu'il y ait plus de préférences ou d'une autre. Justement, la journée des professionnels est faite pour comprendre en fait aussi ce qui se passe avec les interactions des entreprises de petite ou grande échelle. Puisqu'on sent qu'il y a un engouement pour ce genre de mouvement, des makers, ou même des Fab Labs, ou même des hackerspaces, etc. Et je crois qu'on ne comprend pas forcément très bien, on n'a pas encore vraiment beaucoup de recul sur ce qui se passe aujourd'hui. Et justement, le fait d'ouvrir une journée spécialement pour les professionnels et les chercheurs et les universités, c'est pour aussi donner un état de fait de la recherche à un instant T ou des expériences qui sont menées aujourd'hui, tout simplement.
comme je l'ai dit tout à l'heure dans la chronique que nous venons de rediffuser, il y a de multiples attaques politiques sur les makers, ça n'a pas changé, ça a même, il y a même de nouvelles actuellement entre-temps qui sont apparues. Finalement, le Fab Lab Festival, est-ce que ce n'est pas devenu aussi un outil de lobbying, quelque part ? La possibilité, je ne sais pas, de faire venir des nouvelles stars de la politique comme Emmanuel Macron, des personnes politiques étrangères comme un ministre marocain, ce n'est pas une manière de dire, ben, on est là aussi et il va falloir aussi nous accepter.
Oui, tout à fait. C'est aujourd'hui accepter le fait aussi que ce genre de mouvement prend de l'ampleur et commence à s'installer et commence à évoluer. Et il reste à tout à chacun de donner la direction que l'on souhaite à ce mouvement par ce genre d'assises ou de... Je ne sais pas trop comment...
D'accord. Camille, toi-même, en tant que maintenant personne qui est dedans et de la partie, comme on dit, entre personnes qui se regardent en disant « Ah, elle s'est manipulée une clé à molette », quelle est la chose dans la journée professionnelle sur laquelle tu aimerais dégager un petit peu de temps en dehors de l'organisation pour aller voir le truc que tu as envie d'aller regarder ? Voire essayer.
Alors c'est ça qui est assez compliqué, c'est que il y a...
T'as pas fait ton choix encore.
Non, tout à fait. Et surtout, il y a... Par rapport à l'année dernière, on a pu occuper en fait l'espace entier de la halle, ce qui fait qu'on a dégagé un espace de conférence pour 200 personnes. Mm-hmm. Et en plus de cet espace de conférence, il y a encore trois autres espaces mis à disposition pour des ateliers, des tables rondes, des présentations de projets, des présentations de lieux. Donc ça donne une programmation assez dense avec trois programmations en fait simultanées en même temps. Donc c'est assez difficile de faire son choix. Et encore, je le redis, entre des présentations de projets, entre des présentations de lieux, entre des tables rondes où sont confrontées plusieurs idées et où est mené un débat sur l'économie du numérique ou l'économie de l'open source ou de l'open hardware ou l'économie et les business models des Fab Labs aujourd'hui. Il y a autant de sujets intéressants.
On va faire une petite pause. On va demander à une fille ce qu'elle aimerait construire de son côté.
You can sing some of the songs. Do you know any by heart?
Sing that one song you were singing about your little red box.
Oh yeah, I haven't heard that in a long time. Did you forget it?
No.
Show me how it goes. I forgot. Okay. I want to remember and I want to sing.
I wish I had a little red box to put my best friends in. I take them out and put them back again.
Yeah!
Et voilà ce qui arrive quand on demande à une fille qu'est-ce qu'elle aimerait construire et tout ça. Let's build a home. Et c'est ainsi que les White Stripes en ont fait le nom d'un morceau. Solarus.
Oui, alors on va se poser une question. Les Fab Labs sont-ils une fable sociale ? Les Fab Labs, on l'a plus ou moins dit, sont des lieux de fabrication ouverts au public, où chacun, entrepreneur, artiste ou bricoleur, peut se pointer avec sa bonne idée et la réaliser à l'aide des outils présents. Composés d'imprimantes 3D, de fraises numériques et autres outils mécaniques, les Fab Labs, comme les Hackerspace, se lancent aussi dans d'autres domaines, comme l'open data, les hackathons ou le biohacking. Le Fab Lab peut aussi se voir comme une mutualisation des moyens de production, tels que prônés par la doctrine communiste.
Pardon ?
On peut aussi les voir comme un appel à l'autonomie de chacun, avec le do-it-yourself, la lutte contre l'obsolescence programmée, c'est-à-dire une sorte d'anarchie autonomiste high-tech.
Ah, j'ai eu peur.
On peut enfin les voir comme les antichambres de l'innovation capitaliste, un réservoir à inventions brevetables et berceau de futures start-up et autres licornes, une externalisation de la recherche et du développement en somme. Un autre angle sous lequel étudier les Fab Labs est celui du mouvement des communs. Une mise à disposition de machines telles que les imprimantes 3D ainsi que des modèles et des savoirs pour les faire fonctionner peuvent s'apparenter à des biens communs. Les machines du Fab Lab sont, à proprement dit, des propriétés privées. Mais mises en commun au sein du Fab Lab, elles forment un bien commun dont chacun peut profiter, mais que nul ne peut s'approprier ni épuiser, c'est-à-dire faire disparaître. Les plans 3D et les savoirs techniques forment quant à eux des biens communs immatériels et non rivaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dupliqués à l'infini pour au final appartenir à tout le monde en même temps et à personne en particulier. Ainsi, le Fab Lab peut être vu comme un lieu commun, où le savoir commun est dupliqué et mis en œuvre pour être accessible à tous. Attention toutefois, sur ce point, une différence existe avec les hackerspaces. En effet, si la mentalité des hackerspaces incite les hackers à partager leurs inventions, dans les Fab Labs, rien n'oblige les membres à partager leur idée ou leur invention. Je pense notamment aux créateurs de start-up. Et je dois bien avouer que peu de Fab Labs en France communiquent directement sur les projets qui germent dans leurs murs. À part le Fab Lab de Centrale Marseille, peu de structures exposent concrètement leurs projets sur le net. Paradoxal pour un mouvement qui prône l'innovation et la réplication. Pour leur fonctionnement, les Fab Labs ont besoin d'argent. Et leurs financements proviennent parfois d'universités, mais plus souvent de fonds publics et de fonds privés. Il n'est pas étonnant alors de voir le Fab Lab de Toulouse, Artilect, financé entre autres par Airbus. Ce financement doit nous interroger. Le but des entreprises est-il purement philanthropique, notamment à des fins de mécénat ? Ou alors ces entreprises voient-elles dans les Fab Labs un vivier d'idées ou de personnes qui pourraient intéresser son activité première ? Ainsi, de la même manière que GitLab et les GitLab sont un vivier de recrutement pour les industries logicielles, les Fab Labs seraient leur équivalent physique, des viviers de recrutement pour des industries beaucoup plus matérielles. À cheval entre le monde des entreprises, des artistes et celui des bricoleurs, le Fab Lab est un pont entre des univers aux motivations bien différentes. Et si les Fab Labs semblent échapper à tout modèle politique existant, c'est peut-être qu'ils participent à leur façon à casser les concepts pour les redéfinir. C'est aussi ça l'innovation.
Et nous sommes donc toujours avec Camille Platevoet, formatrice en machine-outils au Fab Lab Artilect, justement à propos de la cinquième édition du Fab Lab Festival qui a lieu ce week-end. Quand Solarus dit que malheureusement les Fab Labs communiquent assez peu sur ce qui se passe dans leur mur, est-ce que toi tu es d'accord là-dessus ou est-ce que tu penses qu'il y a un effort à faire ?
Je suis assez d'accord avec cette observation. Il me semble que c'est aussi ce manque de visibilité qui fait que quand on rentre dans un lieu de fabrication numérique, on comprend pas forcément tout de suite ce qui s'y passe et aussi comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment je peux être adhéré, est-ce qu'il faut que je sois adhérent pour utiliser les machines, comment je peux réaliser mon projet, quelle sorte de projet je peux réaliser, quelles sont les limites. En fait, il n'y a pas trop de mode d'emploi aujourd'hui quand on rentre dans un Fab Lab.
Un peu ce qui permet justement d'entrer sans a priori.
C'est ça, et c'est aussi ce qui permet la grande liberté qu'on peut avoir aujourd'hui dans ces lieux-là, justement. Mmh. Le fait que c'est, qu'il n'y ait pas de limite à proprement parler et qu'on puisse expérimenter, apprendre par le, en faisant et faire avant toute chose. Mais en effet, pour que peut-être assurer une plus grande force au mouvement et une plus grande stabilité, le fait d'avoir une meilleure communication sur les projets qui émergent et une meilleure visibilité des projets qui s'y créent. Je me suis un peu perdue dans le travail. Donc voilà, oui, c'est que s'il y avait une meilleure visibilité, voilà, des projets, où, mais plusieurs, en fait, justement, au Fab Lab Festival, là, ce week-end, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur cette problématique. C'est en fait...
C'est justement l'intérêt de cette journée professionnelle, parce que des fois, on parle de trucs qui sont support, en fait, au Fab Lab, avant même de parler de ce que l'on y fait. Donc justement la gestion administrative et la gestion de la communication.
La gestion de la communication, la gestion administrative et aussi l'archivage en fait. Mmh. Et la question de l'archivage des projets, que ce soit par une vidéo mise sur YouTube ou un document PDF mis en ligne sur les réseaux sociaux ou transmis par tout un chacun, ou alors simplement une image mise sur le site du Fab Lab. Ce genre de processus se met en place petit à petit, en fait.
On parlait justement, Solarus a fait une allusion aux entreprises qui créent des Fab Labs, des fois en plus ou moins en interne. C'est le cas, par exemple, d'un industriel toulousain qui est dans l'agroalimentaire, le groupe Poult, qui en a fait une espèce d'incubateur, justement, pour créer de nouvelles technologies et tout ça. Et en même temps, justement, ils ont énormément travaillé sur la partie communication de ce côté-là. Ils ont quelque chose à apporter, ou bien c'est juste le côté démesuré de moyens qui fait que vous ne viserez pas forcément ce niveau-là d'industrialisation, justement, de communication autour des projets.
Alors, j'ai pas forcément très bien compris la question.
Bon, c'est pas grave. Mais je veux dire, eux, justement, les projets qui naissent en interne, ils communiquent énormément là-dessus et ils les mettent énormément en avant.
Oui, puisque c'est une valeur ajoutée, eux, de leur côté, du côté de leur entreprise. Après, il faut savoir donc que Artilect, donc le Fab Lab de Toulouse, a aussi créé le Artilect Lab, donc la partie professionnelle, qui collabore avec ce genre de structure et d'entreprise pour travailler sur ce genre d'innovation, notamment avec des imprimantes avec du chocolat, justement, ou ce genre de choses. Mais c'est une partie des projets. Et mais en effet, je pense qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de rivaliser avec ce genre d'entreprise.
Camille Platevote, juste une question, et elle est vraiment personnelle, celle-là. Vis-à-vis de ton expérience que tu as eue au Fab Lab Artilect, une expérience aussi que tu as peut-être acquérir au Fab Lab Festival, est-ce que tu penses que finalement tu as peut-être trouvé une voie professionnelle de ce côté-là?
Il me semble que, de mon côté en tout cas, les outils numériques m'ont toujours attirée, puisque je crée des projets, je fabrique. Pendant mes études, j'ai travaillé dans des ateliers de moulage, de matériaux composites, de sculpture ou de menuiserie ou de ferronnerie. Donc le côté prototypage rapide m'intéresse grandement. Après, on verra où ça nous mènera.
Merci beaucoup, en tout cas. C'était CPU, le programme carré petit utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Daskrit, Chief Crafting Officer, et Solarus, Chief Building Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de Radio FMR et l'intégralité du programme. Les extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter, partager, enrichir, n'hésitez pas, c'est open source. Prochaine release, ça va être, on va s'accorder quand même une certaine pause, tout simplement parce que la prochaine, c'est le THSF. Ça va être le guide avant la fête. Et nous vous donnons rendez-vous donc jeudi 19 mai à 11h. Et ensuite, du jeudi 19 au dimanche 22, venez sur place. On enregistrera un CPU par jour, en public et en vidéo. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous cédons la place à Monique Blanquet. Ça va être méga, méga, méga chaud quand même pendant le THSF. T'es pas prêt, Solarus. T'es vraiment pas prêt.
Non, mais j'aime bien...
Il va falloir se préparer. Tu te rends compte qu'on va même faire une émission entièrement in English.
J'aime bien me jeter à l'eau.
Ça tombe bien. Et au fait, Monique, c'est l'anniversaire de Shakespeare. Qu'est-ce que tu as de bon dans ton programme aujourd'hui ?